Bonjour, je suis Zico Kiax, ravi de vous trouver aujourd'hui dans cette entrevue où j'ai le plaisir de me retrouver avec Bruno Lallemand. Bonjour Bruno.
Bonjour Zico.
Ravi d'être avec toi. Alors, qui est Bruno Lallemand ? Bruno Lallemand est le créateur de Ressources et Actualisation, qui est une école de formation en développement personnel depuis plus de 26 ans aujourd'hui. Il est également l'auteur de deux livres. Le premier livre qui s'intitule
« Comment utiliser pleinement votre potentiel ?» Voilà. Et le deuxième « Je sais que vous pouvez réussir ».
Voilà, alors vous avez compris, le cœur même de cet échange, de cette entrevue, c'est de parler avec vous de toutes les clés qui l'ont permis justement en 26 années de construire sa carrière, d'arriver aujourd'hui à pouvoir partager son message, son expérience de vie à des très 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 grandes audiences et comment il a réussi aussi à passer cette activité hors Internet jusqu'à Internet grâce donc à tous ces conseils. Donc voilà Bruno, première question, qu'est-ce que Ressources et Actualisation aujourd'hui ?
Ressources et actualisation, j'ai envie de dire, c'est une histoire personnelle d'abord. C'est une histoire personnelle, c'est une quête de soi, une quête de la compréhension de la nature humaine, c'est apprendre à se découvrir, à s'utiliser, et c'est avoir, évidemment, ce sont des cours, une formation complète en trois cycles, où les gens apprennent à mieux utiliser leurs capacités et leurs ressources personnelles. Ce sont des conseils, ce sont des stages aussi, des séminaires d'une journée, des stages de plusieurs jours, où les gens apprennent, découvrent et révèlent leurs capacités personnelles.
Super. Alors aujourd'hui, évidemment, pour que les personnes qui nous suivent sur Internet, on sait que tu es présent en ligne, tu es fort présent, on te voit partout, en tout cas quand on s'intéresse à ces thématiques-là. Et donc le succès est très présent. Moi, j'aimerais savoir, avant d'avoir justement connu cette situation que tout le monde aspire à connaître, quelle était ton expérience, quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu as vécu avant tout ça ?
Bah, c'est une longue histoire, comme je viens de le dire, derrière il y avait d'abord une quête personnelle, parce que je viens d'une famille pauvre, une famille de 7 enfants, avec des drames familiales, j'ai eu même un accident assez grave quand j'étais beaucoup plus jeune, je me suis retrouvé plus tard, même vers l'âge de... J'avais 20 ans, oui, 20 ans, je me suis retrouvé SDF. Mais dès le départ, très jeune, je me posais des questions, j'avais envie de donner un sens à ma vie, de me dire, bon, tout ce que je vis autour de moi, si ça doit être toujours comme ça, c'est pas drôle, quoi. On n'a pas envie de... Et donc, il y a des questions qui se sont soulevées. Au lieu de subir, justement, cette souffrance, moi, je me suis questionné, je me suis interrogé, je me suis passionné par l'accomplissement de soi, par le développement personnel, par les techniques de méditation. Je crois que j'ai dû lire mon premier livre de développement personnel. J'avais 14 ans, 13-14 ans.
Très, très tôt.
Oui. C'était vraiment une recherche. On faisait même partie d'un groupe d'amis. Au début, c'était très tâtonnant. On s'intéressait à l'hypnose, à la spiritualité, au spiritisme même. C'était vraiment l'époque. Et puis, j'ai poussé les choses jusqu'à m'intéresser à la psychologie. J'ai suivi toute une formation en psychologie selon le mode universitaire américain. J'ai fait énormément de stages, de développement personnel, de thérapie, ce genre de choses, et jusqu'à avoir des clés, jusqu'à comprendre justement comment se libérer de la souffrance, comment s'épanouir, se réaliser, atteindre ses objectifs. C'est tout ça qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui.
Et justement, quelles sont les personnes qui t'ont un peu guidé dans ton parcours, quels ont été tes modèles, tes mentors, dans ta quête justement de développement et de formation?
Alors dans un premier temps, je n'avais pas tellement de modèles, ou si des modèles que je voyais de loin, c'était des gens qui enseignaient, comme Karl Graf Durkheim, qui enseignait le Zazen en Occident, ça a été des figures qui enseignait dans le domaine de la spiritualité, évidemment. Je me suis passionné par le bouddhisme tibétain, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Dalai Lama, de faire deux sessions de formation avec lui. J'ai été un élève de Sogyal Rinpoche pendant 4 ans, et puis surtout, j'ai fréquenté un grand maître tibétain du nom de Shimen Rinzai Rinpoche, que j'ai eu le bonheur de fréquenter pendant près de 15 ans. J'avais la chance de côtoyer en privé. Ça a été pour moi quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. Dans un premier temps, il n'était pas question, je cherchais pas forcément la réussite sociale, je cherchais vraiment l'accomplissement personnel, parce qu'il me semblait que le bonheur, c'était pas la réalisation extérieure. C'était d'abord d'être bien avec soi, d'être en accord avec soi, et que c'était sur cette base, en tout cas moi c'est ce qui me semblait, et je confirme encore aujourd'hui, que c'était sur cette base qu'on pouvait vraiment réaliser quelque chose à l'extérieur. Ça doit partir de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire. Et souvent, c'est ce qu'on fait le contraire. Oui. Donc on cherche à se réaliser matériellement, extérieurement en tout cas, en espérant trouver le bonheur. Le problème, c'est qu'on ne le trouve pas. Alors.
Et comment est-ce que tu conseilles justement, si aujourd'hui une personne nous suit là, et elle est actuellement en train de vouloir se réaliser, et elle cherche tout ce qui est extérieur comme bonheur, comment arriver à se recentrer et de finalement se retrouver au niveau intérieur?
Je crois qu'il faut d'abord arriver à ce constat que le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures. On peut, il y a d'ailleurs ce que Rinpoche charriait souvent les Occidentaux, il disait chez vous, vous êtes vraiment extraordinaire parce que vous faites de longues études. Une fois que vous avez étudié, vous allez chercher un homme, une femme, vous allez faire des enfants, vous allez acheter une voiture, une maison, vous allez. Et puis, quand au bout d'un certain nombre d'années, vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de bien distinguer avoir et posséder. On peut avoir quand on est, et on possède quand justement on veut juste se rassurer. Okay. On en avait déjà parlé entre nous d'ailleurs. Je pense que l'erreur qu'on fait, c'est on fait de la réalisation matérielle une valeur. On fait de l'argent une valeur. La valeur, c'est pas l'argent, c'est l'être. C'est l'individu qui est capable justement de créer des richesses. Et pas le contraire. Et nous, on a tendance justement, encore une fois, à investir à l'extérieur sans se rendre compte que nous sommes la source de tout ce qui nous arrive, de tout ce que l'on crée. En fait, notre vie, ce que nous vivons à l'extérieur, est juste le reflet de ce que nous sommes en nous.
Tout à fait.
Rien d'autre.
Et on en a parlé très longuement. On a dit souvent que lorsqu'on cherche à gagner de l'argent, on pense à gagner de l'argent. Quand on suit des mentors ou quand on écoute les gens, on s'intéresse particulièrement au moment où ils parlent que d'argent, et on s'écarte. C'est comme on dit, on va chercher ce qui est extérieur, et quand on se concentre vraiment, on se concentre d'abord à se développer personnellement, à travailler ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, on se rend compte finalement que tout arrive plus simplement, et que l'argent est une conséquence.
Tout à fait. Mais je ne sais plus quel auteur américain disait « Faites ce que vous aimez, et le reste viendra ». La richesse, pour moi personnellement, on n'est pas obligé d'appliquer ces concepts, mais pour moi personnellement, la richesse est une conséquence de ce que l'on va faire, comme les fruits d'un arbre vont être les conséquences de tout ce qu'on lui a porté, de l'endroit où on l'a planté. Mais avant, il y a la passion du jardinier, il y a le bonheur de cultiver, et il va avoir les fruits de ce qu'il a porté, de ce qu'il a fait. C'est vraiment le résultat. D'ailleurs, c'est intéressant le terme de résultat. Ça veut dire résulte de. C'est un aboutissement. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que l'argent, c'est pas un but, c'est un aboutissement. C'est le fruit de ce que l'on a fait. Puis, il faut pas oublier aussi, c'est que l'argent, c'est un moyen. C'est pas ça qui va nous apporter le bonheur.
C'est un moyen. Et on va en parler dans un instant. On va parler d'Internet. Parce que en faisant ce que tu aimes faire, tu as réussi quand même à avoir une activité très florissante sur Internet, surtout en partageant ton message à très grande audience, en aidant des gens à travers le monde. Juste avant de parler de cette partie-là, j'aimerais que tu puisses nous donner quelques clés. Comment passer d'une situation de SDF, parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent, qui rencontrent des difficultés, oui, qui n'ont pas forcément été jusqu'à ce niveau, donc carrément à cette situation SDF. Donc toi, tu as vécu cette situation-là, tu as remonté la pente, et aujourd'hui, tu vis la vie dont tu rêvais. Comment est-ce que tu passes d'un stade à un autre? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, d'abord, il faut quand même préciser une chose, c'est que je me suis retrouvé SDF à la suite d'une situation de ras-le-bol. Il s'est passé un certain nombre d'événements dans ma vie qui ont fait qu'à un moment, j'ai tout plaqué. J'aurais pu faire un autre choix. Je ne voyais pas d'autres solutions, en tout cas qui correspondaient à mon tempérament. Je ne recommande à personne de faire ce que j'ai fait si ça ne correspond pas à son tempérament. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas d'autres possibilités qu'il fallait que je lâche avec quelque chose. Donc j'ai tout plaqué du jour au lendemain et effectivement je me suis retrouvé à la rue. J'ai été en foyer de jeunes travailleurs dans la région de Nancy à l'époque. Et j'étais en quête de moi. Je voulais comprendre ce que je faisais dans cette vie et quel sens je pouvais lui donner. Et je pense que c'est ça ce qui m'a sauvé, c'est justement c'est cette quête, cette soif de comprendre, de savoir, de donner un sens à ce que l'on vit, plutôt que de subir la souffrance, se dire si elle est là, c'est pas par hasard. Elle arrive dans ma vie, c'est peut-être un signe, c'est peut-être un indicateur, il y a quelque chose qui doit être changé. Et c'est ça qui m'a donné justement le souffle. Et puis surtout, je pense que j'ai refusé tout artifice pour me sortir de cette situation. Je pense que Dalai Lama dit une chose qui est très vraie de l'occidental. Il disait en Occident, ce qui est très fort, c'est qu'on a très peur de la souffrance. Et on la refoule par toutes sortes de moyens. Donc on est prêt à prendre des médicaments, prêt à prendre toutes sortes de substances ou de se perdre dans des activités sans relâche pour ne pas ressentir cette souffrance. Alors que cette souffrance, au contraire, comme disent les bouddhistes, c'est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Mm-hmm. Et donc il faut se servir de cette souffrance comme vraiment d'un tremplin. C'est justement parce qu'on en a vraiment assez de souffrir qu'on cherche à s'élever et à croître. Et c'est comme ça qu'on arrive à sortir. Mais tant qu'on refoule la souffrance, tant qu'on est dans la négation de la souffrance, on ne peut pas se libérer.
D'accord, donc c'est vraiment apprendre à la connaître, à la comprendre.
Et à l'apprivoiser.
Et à l'apprivoiser, c'est ça. Oui,
tout à fait.
Ok, donc ce sont des clés, des perles, donc notez-les et retenez-les, et surtout mettez un plan d'action pour après, mais on en parle dans quelques instants. Alors Bruno, ça m'intéresse que tu puisses partager à notre audience ton expérience d'Internet, ta vision d'Internet, parce qu'aujourd'hui, nous avons probablement des personnes qui n'ont pas encore une activité qui est assez développée sur Internet, et tu fais partie des figures qui ont réussi sur Internet à diffuser leur message. Comment est-ce qu'une personne qui souhaite aussi à son tour à réussir à devenir dans sa thématique une référence et partager son message peut s'y prendre?
Tout d'abord, je pense que cette personne, je recommanderais d'abord d'apprendre à reconnaître ses talents. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Je pense que ce que j'appelle une saine réussite, c'est-à-dire une réussite dans laquelle on est vraiment heureux, est indissociable d'un développement personnel. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous créons à l'extérieur, ce que nous réalisons à l'extérieur, est la juste expression de ce que nous sommes en nous-mêmes. Je pense que ça, c'est très important. Et donc, je pense que si une personne veut se développer, veut développer une activité, pas seulement sur Internet, en règle générale, mais je pense qu'il est important, c'est qu'elle pense, qu'elle réfléchisse à ce qu'elle peut apporter, quel genre de service elle peut apporter. Tout le monde a des talents, tout le monde a des capacités, et c'est pour ça que je pense que le développement personnel est important. Tout le monde a des capacités, et c'est ça le point de départ. C'est de se dire, comment je peux apporter un service? Et de mon histoire personnelle, au départ, j'avais un cabinet, et je me suis posé la question de savoir comment je pourrais toucher plus de personnes. Quel était le moyen que j'avais à ma disposition pour faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui puissent bénéficier de ce genre de connaissances? Je parle évidemment du développement personnel. Et d'abord, j'avais eu l'idée d'écrire un livre, ce que je n'ai pas fait tout de suite, parce que je ne m'en sentais pas capable sur le moment. Et puis Internet, c'est quasiment imposé à moi. Donc au départ, je n'avais pas idée de toucher énormément de monde, parce que j'avais d'abord une demande en cabinet des gens qui habitaient loin de chez moi, qui me disaient « mais est-ce que je ne peux pas bénéficier de vos formations, ça m'intéresse, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais aussi profiter de cette démarche ». Et donc c'est comme ça que commençait à naître l'histoire d'Internet, en fait, tout simplement.
Donc connaître ses talents, connaître ses atouts, et savoir ce que l'on veut apporter comme valeur ajoutée, et de savoir vraiment qu'est-ce que moi je peux offrir. Et donc ici, avec le conseil de Bruno, vous voyez qu'Internet a été pour lui simplement un moyen. Un moyen, c'est se dire comment apporter plus de valeur à des personnes qui sont autour de vous. Et si vous nous suivez, vous avez probablement des points sur lesquels on vous demande souvent de l'aide. On vous demande souvent une intervention. On sait que vous avez des connaissances dans tel ou tel autre domaine. Et que ça aide vraiment les gens. À partir du moment où ça aide des gens autour de vous, dans votre entourage, dans les amis, dans la famille, dans les connaissances, ça veut dire qu'il y a sans doute des personnes qui sont un peu plus éloignées de vous actuellement, que ça peut aussi aider. Et puis finalement, dans cette même démarche, c'est ce que Bruno a pu faire aujourd'hui pour construire une entreprise sur Internet qui permet justement d'aider des personnes à différents niveaux. Y a-t-il des moments, Bruno, où dans ton parcours, tu as manqué de confiance en toi? Est-ce qu'il y a des moments où tu as été hésitant dans ton parcours à prendre des décisions, par exemple, pour justement te lancer sur Internet ou d'écrire ton livre? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé les questions, et surtout comment tu as fait après pour dépasser des moments comme ça, des obstacles que tu as pu rencontrer dans ton temps.
Je n'ai, par rapport aux entreprises et aux choix que j'ai faits, je ne crois pas avoir douté une seule fois parce que les choses s'imposaient à moi comme une continuité de ce que j'avais déjà fait. Je pense justement que, pour répondre à cette question, pour éviter justement le manque de confiance, d'abord, je pense qu'il faut complètement éviter de se comparer aux autres. Il faut être complètement en accord avec soi, aimer ce que l'on fait. Je pense que c'est très important de... Je crois que c'est la base, pour moi personnellement, c'est la base d'une saine réussite, c'est de faire ce que l'on aime. Comme ça, il n'y a pas de doute, on n'est pas rongé par le doute, parce qu'on aime ce que l'on fait, et on sait que quand on aime ce que l'on fait, on va vraiment apporter quelque chose aux autres. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai pas eu un seul moment, ça ne m'a même pas traversé l'esprit, ça s'est imposé comme, à moi comme une évidence. Ça allait dans le sens de ce que je faisais déjà, c'était le prolongement de ce que je faisais déjà, et je me disais que c'était effectivement une manière de communiquer, d'entrer plus dans le détail de ce que je faisais, de ce que j'apportais, de la méthode qui était proposée. Donc, par contre, je peux avoir des doutes sur la manière de le faire. Et à ce moment-là, évidemment, je vais consulter des gens, j'applique ce que Christian Godefroy m'avait dit un jour, de ne suivre les conseils que des personnes qui ont réussi et dans le domaine qui vous intéresse. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont toujours prêts à nous donner des conseils, mais ils n'ont pas forcément réussi là où ils donnent des conseils. Ouais.
Donc,
ceux-là, il faut tout simplement les éviter. Et je crois que ça, c'est quand même très, très important. Et puis, il faut surtout... Le manque de confiance est lié à un manque de connaissance de soi. Donc, là, on revient à cette notion de développement personnel, parce que quand on se connaît, quand on sait qui l'on est, ce que l'on est capable de réaliser, et la confiance naît, elle nous accompagne partout. Et je crois que la confiance en soi, ça c'est un conseil que je donnerais vraiment à toutes les personnes qui se lancent dans une entreprise, avant justement de se lancer dans une entreprise, c'est d'acquérir cette confiance en soi parce que c'est le pilier de la réussite d'une vie. On ne peut pas réussir sans confiance en soi.
Et si donc les trois clés principales, si on en parle de trois, pour avoir confiance selon tes propos, c'est déjà premièrement de ne pas se comparer aux autres.
Jamais se comparer et justement reconnaître sa propre individualité parce qu'on est tous différents et c'est cette différence qui nous rend riches.
C'est ça.
On est tous, et c'est pour ça qu'on est tous complémentaires, on a tous quelque chose à s'apporter, ça c'est très important, et puis d'apprendre à se connaître. La confiance en soi, je le dirais très simplement à travers une image, quand on va dans un lieu que l'on ne connaît pas, on n'est pas tout de suite très à l'aise, il y a une certaine forme d'anxiété, il peut y avoir un certain stress qui est tout à fait normal, parce qu'il faut qu'on prenne nos repères. On va passer du temps dans ce lieu, on va se familiariser avec ce lieu, donc on va gagner en aisance. La confiance en soi, c'est la même chose. C'est que plus on se familiarise avec ses ressources, plus on se familiarise avec ses capacités, et bien plus on va gagner en aisance.
Et alors la partie, parce qu'il y a des personnes qui ont envie justement de se réaliser, mais qui pensent ne pas le mériter. On a le sentiment que leur estime de soi n'est pas très développée et se disent, ben, moi, oui, c'est vrai que j'ai envie, j'aimerais faire ça de ma vie, mais je n'ai pas vraiment le sentiment d'être légitime. Un peu ce complexe du succès ou de l'imposteur qui bloque certaines personnes. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui se retrouve dans cette situation ?
Alors je dirais d'abord que c'est de l'orgueil mal placé.
C'est direct.
Oui, parce que là on se compare, on se dit il y en a qui ont droit, il y en a d'autres qui n'ont pas droit, et je fais partie apparemment de ceux qui n'ont pas droit. C'est une erreur, j'ai presque envie de dire, je parais un peu direct, mais c'est stupide de croire ça. Faut jamais y croire ça. On mérite tous le bonheur. Tout le monde a le droit d'être heureux. Tout le monde a le droit de réussir. Tout le monde a le droit parce que on a tous quelque chose à apporter. Il n'y a rien. Ça c'est des jugements dévalorisants auxquels on ne doit justement pas adhérer et dont il faut absolument se débarrasser. Ça, c'est vraiment important. Je ne connais pas une personne au monde qui n'a pas le droit d'être heureuse ou qui n'a pas le droit parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Mais souvent, je pense que il faut bien faire la distinction entre les actes et la personne. C'est pas, bien sûr, on a tous commis, réalisé des choses qui n'étaient pas forcément heureuses dans notre vie, mais ça ne remet pas en question notre valeur fondamentale. Et ça, c'est très important. Donc, il faut apprendre à se pardonner. Là, encore une fois, on revient vers le développement personnel. Il y a toute une démarche de développement personnel qu'il faut avoir, qu'il faut acquérir, justement, pour se épurer tout ça, de s'épurer de tous ces jugements, de tous ces préjugés, de toutes ces images qui nous collent à la peau, de façon à libérer l'être que nous sommes.
C'est vraiment très intéressant dans tes réponses. Il y a vraiment cette grande dimension de développement personnel qui est présente. Et malgré que on peut parler d'affaires aussi, on peut parler d'entreprise, parce que c'est un véhicule qui permet de développer justement et d'apporter sa valeur ajoutée. En te concentrant vraiment sur toi, tu as réussi à construire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aussi à l'entrepreneuriat, tu as réussi à construire une entreprise prospère en te concentrant vraiment sur toi, en travaillant sur toi. Et au plus tu as investi dans toi, au plus tu as développé ta réussite. Donc ça, c'est très très pertinent. Pour toute personne qui se trouve bloquée et qui a vraiment envie de ça, ce sont des clés très très pertinentes.
Ah, parce que, encore une fois, je le répète, la richesse, c'est l'individu. Ce n'est pas ce qu'il produit. Bien sûr, il va produire des richesses, et c'est très important. Mais à la base, justement, c'est important de s'occuper de l'individu. C'est la personne qui va créer. Et plus on apprend à se connaître, plus on apprend, à reconnaître ses talents, à reconnaître ses qualités, à reconnaître ses capacités, plus on va pouvoir créer de manière riche, de manière saine, de manière utile, de manière constructive. Ça, c'est très important. Ça s'applique. Et ça ne s'applique pas que dans les affaires, ça s'applique dans les relations humaines. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Justement, tu viens de dire quelque chose qui me semble particulièrement important. Dans le domaine de la spiritualité et de l'accomplissement personnel, on voit que souvent la plupart des gens refoulent justement le côté matériel, l'aspect de la réalisation matérielle. Et de l'autre côté, on voit les gens qui sont dans le business, dans la réalisation matérielle, refoulent le côté développement personnel. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a justement pas un juste milieu à réaliser? Parce que ce qui est très amusant, c'est qu'on voit que les gens qui s'intéressent à la spiritualité se débattent avec leurs problèmes financiers, et puis les gens qui sont dans le business se débattent avec leurs difficultés personnelles. Et donc, on se rend compte que c'est très important. On a besoin, je ne sais pas, si justement je veux créer un centre de développement personnel, d'accomplissement personnel, il faut que je gagne de l'argent, c'est indispensable. Il me faudra des fonds, il me faudra des moyens. Donc, il faut que je crée de la richesse, il faut que je crée de l'argent. Donc, il y a toute cette notion d'interdépendance qui est très importante, qu'il faut bien comprendre et bien maîtriser. Et à partir de là, on peut trouver, je pense qu'on peut vraiment trouver ce juste équilibre entre la réalisation matérielle et la réalisation personnelle.
Tout à fait, c'est très très pertinent et c'est un point vraiment dont on a parlé, régulièrement. Et c'est intéressant que les personnes qui, quand vous nous écoutez maintenant, vous puissiez trouver ce juste équilibre vraiment entre cette dimension personnelle et cette dimension d'affaires et d'arriver à vous épanouir dans les deux pour réaliser en fait tous les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on a parlé tout à l'heure, tu as parlé de Christian Godefroy, et moi, je t'ai connu via une interview avec Christian Godefroy. Je pense que tu étais encore, je dirais, dans les débuts de tes activités en ligne, sur Internet, et tu réalisais déjà pas mal de résultats, et moi, je ne connaissais pas encore Internet, je découvrais à peine, et en écoutant justement ce côté possible, ce que tu racontais avec Christian Godefroy qui te posait des questions, j'ai eu pas mal de déclics, ça m'a beaucoup inspiré. Tu as fait partie des personnes comme ça sur lesquelles j'ai eu quelques clés et quelques pépites. Raconte-nous un tout petit peu tes débuts avec Internet et justement la progression après. C'était quoi les débuts d'Internet pour toi?
Alors, au début, comme je disais, j'avais mon cabinet et l'idée a germé dans mon esprit d'essayer de faire en sorte de toucher plus de personnes parce qu'avec un cabinet, on reste quand même très limité. L'autre objectif que j'avais, c'était de démocratiser le développement personnel. Parce que quand on va, lorsqu'on suit une formation de développement personnel, c'est excessivement cher. Tout le monde ne peut pas se le payer. Alors c'est peut-être lié à mes origines modestes, certains critiqueront, mais enfin, c'est pas très important. Mais je me suis dit, mais justement, tout le monde a droit à ses connaissances. Tout le monde devrait pouvoir y accéder. Et donc je me suis dit, mais et c'est comme ça qu'Internet, l'idée d'Internet est venue à mon esprit, parce que je me suis dit, je peux apporter exactement la même formation, mais à des coûts dérisoires pour les gens, tout en pouvant prospérer. Et c'est comme ça qu'Internet est venu. Alors, l'idée était là, maintenant il fallait la mettre en application. Et c'est comme ça que j'ai rencontré justement Christian Godefroy, qui au début m'a conseillé, il m'a donné quelques pistes. Chaque fois que je créais quelque chose, je lui renvoyais, il m'expliquait, il me disait quels étaient les défauts, puis petit à petit, ça a commencé à se développer. Alors, au début, je pensais en faire juste une activité annexe à mon cabinet, puis c'est devenu
complètement mon activité, parce que le succès est venu vraiment très rapidement. L'espace de 6 mois, j'ai dû arrêter mon cabinet parce que j'arrivais plus à suivre sur Internet. Et c'est comme ça que l'activité est devenue extrêmement florissante.
Alors, j'aimerais que tu puisses nous donner, toi, ta vision du leadership. Pour toi, qu'est-ce qu'un leader et qu'est-ce qu'un leader incarne pour toi avec les valeurs qui sont les tiennes, selon toi, ton modèle de leadership?
Alors, moi qui passais, évidemment, ça fait partie de mes influences, mais moi qui passais beaucoup de temps avec des maîtres spirituels, tibétains, indiens, et puis occidentaux aussi, j'ai appris une chose avec eux, pour moi, c'est l'exemple. Personnellement, je prône l'exemplarité. L'individu doit, ou plutôt, ce que crée l'individu doit être le reflet de ce qu'il est. Parce que souvent, j'ai eu beaucoup de surprises de voir des gens qui, en public, paraissaient, on disait de ouais, c'est des gens extraordinaires. Puis quand on passait du temps avec eux, c'était une catastrophe. C'est vraiment. Et je me disais, mais j'avais toujours cette espèce de déconvenue. J'étais un peu déçu parce que je me disais, on montre, c'est comme avoir un cadeau avec un très très bel emballage. Puis quand on ouvre le cadeau, on est vraiment déçu. Et c'est un petit peu pareil. Je me dis, bon, on voit plein de gens qui réussissent, qui ont des activités florissantes, qui peuvent être des maris épouvantables, qui des pères complètement absents, qui sont très maladroits ou très mal à l'aise dans leurs relations, ou même des gens très angoissés. Et je me dis, moi, c'est l'aspect qui me gênait. Et ce que je ne trouvais pas, justement, avec ces guides que j'ai rencontrés, qui étaient en parfaite cohérence, il n'y avait aucune distinction entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils créaient. Et pour moi, vraiment, c'était un exemple. Pour moi, c'est ça le vrai leadership. C'est l'être doit incarner dans son quotidien ce qu'il est, dans ses affaires et dans tout ce qu'il fait. Et là, on a quelqu'un qui est en parfait accord avec lui-même. C'est ce que j'appelle, pour moi, c'est ça, un succès sain. Un vrai succès. Ce n'est pas un succès qu'on porte, c'est pas un succès qu'on subit, et ça n'est pas un succès dont on dépend. On doit être libre de son succès.
Comment, justement, en pratique, selon toi, on fait pour parvenir justement à produire ce que l'on est? Quand on est, par exemple, un formateur, quand on est dans un milieu public, par exemple, ou qu'on veut développer un message sur Internet. Comment réussir à faire ça?
Personnellement, je me suis toujours imposé de ne jamais créer quelque chose qui puisse nuire à mon équilibre personnel. Quoi que je fasse et quoi que je réalise, ça doit toujours préserver ma tranquillité d'esprit. Donc, c'est mûrement réfléchi, je prends le temps, je ne fais rien dans la précipitation, tout ce que je fais, certains de mes proches me trouvent même parfois lent, disent oui, mais tu. Pour moi, il faut que ça soit mûrement réfléchi pour que ce que je produise soit harmonieux, et reste en accord avec mes valeurs. Ça, c'est très important. J'ai refusé des affaires, certaines personnes m'avaient proposé, j'aurais pu gagner des millions, et j'ai préféré refuser. Parce que justement, ça allait à l'encontre de mes principes de vie, ça allait à l'encontre de mes valeurs, et c'est quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Donc pour moi, l'argent, ça ne me grille pas les neurones, comme on dit. Pour moi, ce n'est pas important. Je veux rester tranquille par rapport à ça. Et lorsque c'est mûrement réfléchi, je pense que les choses naissent de nous. À un moment, l'idée s'impose à nous, elle se dit « oui, c'est ça, voilà, c'est ça que je dois faire ». C'est vraiment ça, ça s'impose à moi. Et de là, ça va vraiment naître. C'est pour ça que je dirais à toutes les personnes qui ont envie de réaliser quelque chose, que ce soit sur Internet, n'importe où, même dans. C'est vraiment de prendre le temps de la concertation, le temps de la méditation, le temps de la réflexion, de façon à ce que leur idée s'impose à eux.
C'est ça.
Voilà, et pas le contraire.
Donc vraiment. Rester en accord avec ses propres valeurs personnelles, son équilibre personnel, et de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de mettre les choses en place sans précipitation. Alors j'aimerais un complément d'information pour les autres personnes qui vont dans l'extrême, qui attendent toujours, qui attendent, et qui prennent trop de temps justement parce qu'ils se disent que...
Ça peut cacher des peurs aussi, hein. Il faut trouver le juste milieu. Ce qu'on dit, il y a un moment où il faut y aller, c'est vrai, mais il ne faut pas y aller prématurément. C'est comme si on veut planter une graine trop tôt, si il y a un risque de gelée, elle va mourir. Et donc on aura tout perdu. Donc on aura fait des efforts, on aura retourné la terre, on aura apporté de l'engrais, on aura fait plein de choses, on va mettre les graines et elles vont mourir parce que justement c'est précipité pour les planter. Donc jamais de précipitation. Dans l'autre sens, si on attend trop, bah, on peut reprendre encore une fois l'exemple de la graine, on va la planter trop tard et elle va donner ses fruits en automne ou en hiver. Donc ça va pas aller. Donc là c'est pareil, il y a un moment, il faut oser. Il faut accepter, il y a des risques dans toute entreprise. On peut découvrir qu'on s'est trompé. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'erreur. C'est Einstein qui disait que celui qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais innové. Et je pense qu'il faut oser, on tâtonne, on fait des essais, on se plante, on fait beaucoup d'erreurs. Encore aujourd'hui, ça m'arrive personnellement de faire des erreurs. Mais c'est un enrichissement personnel, c'est un échec, c'est un résultat aussi. On peut le voir de manière négative, mais on peut le voir aussi de manière positive. C'est pas parce que c'est un échec que c'est négatif. Il y a toujours à apprendre, puisque c'est toujours un résultat. Donc c'est toujours positif.
Donc prenez le temps d'aller vite, comme j'aime dire souvent en plaisantant. Donc prenez le temps, et puis à partir du moment où vous pensez donc avoir les bons éléments, avoir les bons ingrédients, allez-y sans avoir peur de manquer votre cible, sans avoir peur d'avoir un insuccès temporaire, parce que finalement un succès n'existe pas vraiment, ce sont des insuccès temporaires, ce sont des expériences de vie. C'est très enrichissant. C'est Henry Ford qui disait souvent, quand il a fait sa grande découverte, il a dit: comment avez-vous fait pour échouer autant de fois? Il a dit: jamais une seule fois j'ai échoué, j'ai découvert différentes façons de ne pas atteindre ma cible, et à chaque fois j'ai appris, j'ai découvert pour arriver à mon objectif. Bruno, j'aimerais savoir aujourd'hui, avec ta situation actuelle, quelle est ta journée type, ta semaine type? Comment est-ce que tu occupes ton temps?
Alors, la première chose quand je me lève, c'est d'abord de nourrir mes chats.
Ok.
Parce que quand je descends, ils sont tous là à attendre que je leur donne à manger. Parce que je trouve qu'avoir des animaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très apaisant, c'est très enrichissant. Ensuite, je consacre toujours du temps à la méditation. Ça, c'est vraiment la première chose que je fais avant même de déjeuner. Je prends une petite collation. Je vais faire une marche dans la nature, juste derrière chez moi, parce que j'habite à flanc de colline et j'ai juste à faire quelques pas, je me retrouve dans la forêt. Donc, je vais marcher pendant une demi-heure, une heure. Comme ça, j'ai l'esprit, j'ai le cerveau bien oxygéné. Je me refais une petite méditation. Ensuite, je prends mon ordinateur, je réponds à mes emails, je regarde un peu ce qui s'est passé, l'activité qui s'est déroulée, je réponds autant que possible, parce que aujourd'hui je traite à peu près 400 mails par jour.
Voilà.
Oui, vraiment, ça va. Tu
t'en sors seul ou
tu... Oui, tout seul, ça me prend à peu près quelques heures.
Bravo.
Ensuite, je travaille en fonction de ce que j'ai à faire. Soit j'écris, parce que j'adore écrire, j'écris beaucoup d'articles, j'écris énormément d'articles, parce que j'essaie de répondre à travers mes articles, de répondre aux questions que les gens se posent. Et puis, je mets en place des projets, j'établis des comptages, voilà, c'est à peu près... je m'octroie régulièrement des pauses. Ça, c'est très important. Parce que, comme ça me permet de retrouver ma tranquillité d'esprit. Dès que je sens que mon esprit entre dans une... comment dire... Quand je sens que je commence à perdre mon recul et mon équilibre, aussitôt, je marque une pause et je refais un peu de méditation, je vais marcher, ou... Voilà.
Avoir le choix, finalement tu as construit la journée type idéale dans laquelle tu fais ce que tu aimes faire.
Oui. Alors évidemment, bon, il y a une chose que je n'ai pas dit, mais je pense que c'est important, enfin personnellement c'est un choix personnel, mais j'évite toute substance qui pourrait m'embrumer l'esprit.
Oui, c'est...
quelle que soit leur forme,
comme par exemple...
légal ou illégal, de toute façon.
Voilà. Comme par exemple, donne-nous des exemples, parce que c'est vrai que les personnes qui...
Personnellement, je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool, je ne prends aucune substance, quelle qu'elle soit, qui m'empêche d'avoir une vision claire. Mon objectif, justement, vraiment ce qui est important, et c'est le but de la méditation, la méditation c'est justement de garder toujours l'esprit clair, puisque le but de la méditation c'est d'éveiller l'attention, c'est donc d'avoir un esprit clair, d'avoir des pensées claires et paisibles. Parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, nous sommes le créateur, donc tout naît de nous. Donc il faut prendre soin de nous, pas soin dans le sens, dans le sens égoïste du terme, parce que je fais bien la distinction entre la préoccupation de soi et s'occuper seulement de soi. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de la source, de celui qui crée. Et ça, c'est très important. Et à partir de là, on va créer des choses qui sont en accord avec notre état d'esprit.
Qu'est-ce que cette activité, finalement, sur Internet, le fait d'utiliser le canal d'Internet, a changé dans ta vie, en termes personnels, réellement?
Je trouve qu'Internet, d'abord, c'est un outil absolument extraordinaire, parce qu'on peut toucher énormément de gens, on peut apporter des connaissances qu'on aurait été incapable de porter il y a encore quelques années. Grâce à Internet, à énormément de gens en même temps. On peut toujours toucher des milliers, des dizaines de milliers de personnes en même temps, leur apporter une information qui va vraiment les aider dans leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois plus d'une dizaine de témoignages extrêmement positifs de gens qui ont transformé leur vie grâce justement à la mise en application de la méthode qu'on propose. Donc pour moi, c'est vraiment un moteur, parce qu'on a un feedback, on a un retour qui est extrêmement positif et qui nous dit ben, on est sur la bonne voie. Donc c'est très agréable et ça nous encourage justement à progresser davantage. Quand je dis nous, parce que je ne peux pas me dissocier de ma petite équipe, de mon assistante et de mon technicien avec qui je travaille, et puis de toutes les personnes qui, directement ou indirectement, ont collaboré à Ressources et Actualisation. Donc, dans ce sens, Internet, c'est une vraie petite révolution, enfin une immense révolution. C'est une immense révolution. Donc on peut, comme disaient mes mentors, et comme tout ce que l'on utilise, c'est comme un couteau. Soit on peut faire des choses pas très agréables, on peut tuer quelqu'un, mais on peut aussi faire vraiment des choses extrêmement positives avec un couteau. On peut sculpter, on peut préparer un repas, on peut faire énormément de choses. Internet, c'est exactement la même chose. Autant on peut faire des choses pas très, on va dire, pas très belles, et certains n'hésitent pas, c'est vrai. Et de l'autre côté, on peut vraiment faire des choses extraordinaires, parce que c'est un outil de communication absolument fantastique.
C'est ça. Donc un outil, un moyen qui vous permet de pouvoir amplifier faire de votre message, vos produits, vos services, votre formation, ce que vous avez à pouvoir apporter aux autres, de la valeur ajoutée, toujours dans cette idée d'échange. Quelles sont les prochaines étapes, Bruno, justement? Quelles sont les idées que tu as en tête? C'est quoi les prochaines étapes pour Ressources et Actualisation?
Alors justement, Ressources et Actualisation, comme je l'ai dit, son objectif, c'est de propager des connaissances pratiques pour que les gens puissent justement avoir des clés, des outils, des moyens pour transformer leur vie, pour réformer leur esprit, pour l'infléchir dans le sens de leurs aspirations, de leurs désirs. Donc l'objectif, c'est justement de toucher encore plus de monde. Donc on est en train de créer différents partenariats. On a un objectif encore, c'est la première fois d'ailleurs, j'en parle, donc c'est une première, mais l'objectif, c'est de réaliser un centre où on pourra accueillir des gens, un immense centre où on pourra directement, parce que pour l'instant je vis des maisons, etc., mais c'est vraiment de façon à pouvoir accueillir des gens directement sur place. Ils seront faire vraiment des formations sur site directement, parce que bon, j'aime le contact, c'est quelque chose dont je n'ai pas envie de me passer. C'est pas parce que je suis derrière mon ordinateur que je n'ai plus ce besoin de contact, au contraire, parce que encore une fois, j'anime des stages et c'est quelque chose qui est extraordinairement enrichissant. Donc là, le but, c'est vraiment de créer un lieu pour que les gens puissent se retrouver et pratiquer dans cet esprit.
Super. Et quelle est ta vision du partenariat, justement, l'idée justement de s'entourer d'alliés et de personnes qui ont différentes ressources, parce que je parle beaucoup de partenariat, mais les personnes qui me suivent savent que ce point, pour moi, en tout cas, est un point important. Maintenant, j'aimerais avoir ta vision à toi du partenariat, le fait de pouvoir justement...
Partenariat, c'est d'abord une relation de confiance. Pour moi, c'est fondamental. Toutes les personnes avec qui j'ai toujours travaillé par affinité. J'ai eu quelques déboires, j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps avec une personne peu scrupuleuse et je le déplore.
On ne citera pas.
On ne citera pas. Mais en règle générale, je pense que l'affinité avec la personne est très importante. Je pense qu'il faut toujours travailler avec des personnes avec qui on est en affinité, parce que souvent on va mettre en avant l'intérêt qu'on va retirer de la situation, de la relation. Pour moi, c'est important qu'il y ait d'abord une relation de confiance, presque une relation amicale, de façon à ce qu'on travaille dans de bonnes conditions, dans de bons rapports. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est de ce que nous sommes que va naître ce que nous faisons. Eh bien, c'est la même chose quand on a un partenariat avec quelqu'un, quand il y a une vraie amitié, une vraie relation saine, équilibrée, eh bien, on peut faire vraiment des choses saines. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que j'entends souvent dans le monde des affaires, oui, il faut rester professionnel, chacun à sa place, mais je pense que s'il y a une bonne connivence, je pense qu'on peut vraiment créer des choses vraiment chouettes.
Superbe. Alors, vous avez reçu plusieurs conseils, et le dernier pour la fin, maintenant, Bruno, si aujourd'hui, tu veux recommencer du début, en tant que jeune entrepreneur ou futur entrepreneur, et pour pouvoir atteindre le niveau que tu as atteint aujourd'hui en termes d'épanouissement, de réalisation, d'accomplissement, quelles sont les routes que tu prendrais, en tout cas, quelle est la première marche que tu ferais, que tu as à partir d'aujourd'hui ou demain, pour pouvoir aller le plus dans le chemin qui mène vers la situation actuelle?
Je pense que j'appliquerais pratiquement les mêmes principes, à savoir de côtoyer les personnes qui ont réussi dans le domaine qui m'intéresse, de les écouter, de les étudier. Je pense que j'étudierai encore plus, je serai beaucoup plus attentif à ce qu'ils me diraient, parce que je me dis que si cette personne a obtenu ce résultat, c'est qu'elle a simplement fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. Je suis et je serai peut-être encore plus vigilant quant à la personne elle-même. Pour moi, c'est très important. Je ne regarderai pas seulement ses affaires, mais aussi ce qu'elle est. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Je suis très sensible à ça, et je pense que c'est important de se former, de beaucoup se former, d'être professionnel. Vraiment, je crois que c'est vraiment important. Bon, il est clair, pour progresser, on est obligé, comme je le dis souvent, l'adresse commence par la maladresse. Donc au début, on est maladroit, on est tâtonnant, on cherche et on acquiert de l'aisance, on acquiert de l'habileté, on acquiert des capacités qui se développent, on devient de plus en plus, genre, entre guillemets, professionnel. Et donc, oui, je crois que ça sert vraiment beaucoup d'écouter, d'étudier, de regarder, d'observer, d'apprendre des autres, et puis, comme on l'a dit, d'apprendre de ses échecs aussi.
Très bien. Mais sur ce dernier conseil, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous avez reçu beaucoup de conseils de Bruno Lallemand, qui est un leader dans son domaine, dans sa thématique, qui aide les gens vraiment à se développer, à se dépasser. Et nous avons aujourd'hui cette superbe idée d'échanger, d'apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui nous suivent, donc à vous qui nous suivez, pour que vous puissiez à votre tour mettre tout cela en pratique, pour avoir des transformations dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans vos relations d'affaires, amicales, bref, que vous puissiez à votre tour devenir la personne que vous rêvez de devenir. Nous avons encore d'autres contenus, si vous le voulez, vous avez sûrement un lien en dessous de cette page ou quelque part sur ce site. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je te remercie, Bruno.
C'est moi qui t'en remercie.
Et mes meilleurs vœux de succès. À très bientôt. Merci.
Merci.